François Hellebrun, bonsoir.
Bonsoir Pierre.
François Hellebrun, vous êtes professeur associé à Sciences Po et avec vous, nous allons bien sûr évoquer ce soir la victoire de Donald Trump lors de l'élection présidentielle américaine qui a eu lieu hier. Après la fermeture des bureaux de vote, le candidat républicain a obtenu, à l'heure où nous parlons, 266 grands électeurs, lui assurant donc la victoire sur son adversaire Kamala Harris, qui a obtenu le vote de 195 grands électeurs. À noter que tout au long de la nuit, la majorité des médias américains avaient prédit la victoire de Donald Trump jusqu'à l'annonce finale. Et lors de son discours de victoire, ce matin, Donald Trump a déclaré « Sous mon mandat, nous n'avons pas eu de guerre. Les démocrates disaient « Il va déclencher des guerres. Je n'ai fait qu'arrêter les guerres. Nous avons vaincu Daesh en un temps record. Je ne vais pas commencer de guerre. Je veux finir les guerres. » François Hellebrun, est-ce qu'il va finir les guerres en Israël et en Ukraine ?
C'est une excellente question, c'est une question complexe, parce qu'effectivement, il avait une image de belliciste, mais aussi une image d'isolationniste. Quand les Américains élisent un président isolationniste, celui-ci n'aime pas qu'il y ait des guerres dans le monde, il s'intéresse plus au développement économique, et d'ailleurs ça a été un de ses grands axes de campagne. Et peut-être avant de parler de cet aspect ukrainien-israélien qui est évidemment très important, je voulais revenir sur la victoire de Trump qui est écrasante et beaucoup plus écrasante que les commentateurs, notamment journalistes français, pouvaient l'estimer. Elle est tout à fait écrasante parce qu'il représente quelque chose, et ce qui est fort chez lui et ce qui est intéressant pour nous aussi français, c'est qu'un homme de 78 ans, donc très âgé, ce sera le plus âgé président des États-Unis, qui a un nombre de dossiers judiciaires, de poursuites judiciaires absolument terribles, qui a des sautes d'humeur, des sautes de raisonnement assez frappants, arrive à gagner de telle manière. Et quand on regarde la carte des États-Unis, il y a deux États-Unis, un peu comme il y a deux France, il y a les États-Unis des États centraux et de la côte Est, mais de la côte Est du Sud, et puis il y a les États-Unis des grandes mégapoles tournées vers le monde, de la Californie, de New York, de Boston. Et en fait, il y a un vrai clivage, et un vrai clivage identitaire. Et Trump, qui est pourtant, comme on a souvent échangé entre nous, un milliardaire new-yorkais, et il n'y a rien d'autre, il sait parler à ses classes populaires, ses classes laborieuses, qui se sentent coupées du monde, qui se sentent dans un monde plus compliqué, plus difficile, qui ont peur du chômage, de l'inflation, de l'insécurité, des migrations non contenues, et aussi des guerres. Et c'est là où on va revenir à votre question. Une guerre en Ukraine n'est pas forcément le problème des Américains du Kansas, du Nebraska, du Dakota du Sud, du Wyoming, du Montana, qui ont donné une victoire éclatante à Trump. Et donc, c'est aussi un enseignement pour la France, parce qu'en France, on a le même phénomène entre le vote des grandes métropoles, Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, et puis le vote d'une France de périphérie qui se sent isolée. Et la dynamique Trump aussi explique la dynamique Rassemblement national en France. Ce sera donc une des choses qu'il faudra veiller. Et deuxième chose importante sur la victoire de Trump, c'est la capacité toujours, hein, ça c'est toujours dans toutes les élections, d'avoir quelqu'un qui campagne et qui campagne bien. Il l'a fait bien, de manière assez impressionnante, 900 meetings avec une force et une énergie pour un homme de son âge assez incroyable. Et l'importance des réseaux sociaux, et c'est la victoire de Trump, c'est aussi quelque part la victoire d'Elon Musk, et la puissance des réseaux sociaux à construire une image, à construire à la fois des vérités qui ne sont pas forcément des vérités, mais aussi gérer des fake news. Et donc ça, c'est aussi un enseignement pour nous, c'est qu'en 2024, les élections se gagnent aussi sur les réseaux sociaux, et il n'y a pas que les meetings de campagne. Alors pour revenir à votre question précise sur qu'est-ce qui peut arriver en Ukraine et en Israël. Alors sur l'Ukraine, Trump a toujours été très clair, ce qu'on lui reproche à juste titre, c'est sa proximité avec les Russes. Il a toujours été proche des Russes, toujours été assez complaisant avec les Russes, c'est peut-être pour ça qu'il n'y avait peut-être pas eu de guerre. Il a un vrai lien avec Poutine, un vrai lien relationnel avec Poutine. Il est venu très tôt en Russie, les Russes l'ont aidé souvent dans ses affaires, ça a été révélé par une excellente enquête, notamment publiée dans Franc-Tireur. Et donc cette proximité avec les Russes lui donne l'impression qu'il peut faire un deal. C'est un homme de deal, c'est un homme d'affaires. Il l'a fait sur les accords d'Abraham, il a fait des deals avec les pays arabes, il leur a donné au Maroc, il leur a donné la reconnaissance sur le Sahara occidental, aux États du Golfe, il leur a donné une protection militaire accrue et de l'argent. Donc il sait faire des deals, et donc il pense pouvoir faire un deal entre Poutine et Zelensky pour arrêter cette guerre qui coûte très cher aux États-Unis et sur lesquels les buts de guerre, il n'est pas tout à fait d'accord. Et donc pour l'Ukraine, c'est pas forcément une bonne nouvelle, parce qu'il peut avoir envie de faire un deal justement sur le dos de l'Ukraine ou des cessions territoriales, qui seraient en fait des abandons territoriaux, inacceptables évidemment pour les Ukrainiens, lui serait imposé par les Américains. Donc ça, c'est pour l'Ukraine, c'est plutôt inquiétant. Côté israélien, là où c'est, il a été très clair aussi, il a toujours un discours pro-israélien, il est très proche de Netanyahou, contrairement à Biden, qui était en forte rivalité avec Netanyahou. Et sur Israël, il a toujours dit, et il l'a dit plus récemment, que sur notamment l'ennemi principal d'Israël, qui est l'Iran, il laisserait les Israéliens finir le boulot. Et donc là, ce n'est pas tellement un rôle actif dans une négociation de paix, mais c'est plutôt laisser Israël terminer ses guerres, notamment contre le Hezbollah, le Hamas et vraisemblablement l'Iran. Donc c'est une pression majeure additionnelle sur l'Iran qui peut peut-être permettre de déboucher sur quelque chose là de positif, parce que les Iraniens qui sont très intelligents, très habiles, comme on le voit, qui essuient depuis 2-3 mois des défaites écrasantes de la part de la stratégie militaire israélienne très efficace, aussi bien à Gaza qu'au Liban, mais aussi, on l'a vu dans les frappes récentes israéliennes, qui ont été une très très grande réussite sur le territoire iranien. Les Iraniens sauront que maintenant, il n'y aura pas une main américaine comme celle de Biden et Blinken qui freinait un peu Israël dans sa contre-offensive contre l'Iran, et que peut-être justement il y aurait carte blanche. Donc les Iraniens, qui sont des gens prudents, même cette dictature islamique, va peut-être changer d'attitude, et donc ça pourra peut-être déboucher avec cette pression accrue de la part d'un président américain très soutien d'Israël et très anti-iranien, qui peut changer la donne de ce côté-là. Donc inquiétude pour l'Ukraine, mais peut-être une opportunité pour Israël de terminer cette guerre avec une victoire stratégique et tactique sur la menace des Mollahs et de la République islamique d'Iran, qui est la principale menace au Proche-Orient.
Avec un timing incroyable, puisque hier, Benjamin Netanyahou a limogé son ministre de la Défense, Yoav Gallant. Ça faisait longtemps que les deux hommes ne s'entendaient plus. En fait, ils ne s'entendent plus pratiquement depuis, on va dire, le mois de janvier, après le 7 octobre, et même avant, puisque Yoav Gallant s'était opposé à Yair Levin pour la réforme de la justice en Israël.
Deux ans.
Mais force est de constater que si Trump laisse les mains libres à Israël pour finir ses guerres, il va falloir avoir un homme au-delà de Benjamin Netanyahou qui gère l'armée.
Oui, alors c'est justement, je suis tout à fait d'accord avec vous, je suis frappé par cette concomitance de décisions. Et je pense que c'est voulu de la part de Netanyahou, qui est un fin stratège à tout point de vue. On ne peut pas être d'accord sur ses tactiques, mais en termes de stratège, il réfléchit en stratège. Il s'inspire de Churchill souvent, et c'est et pour le meilleur comme pour le pire. Mais là, effectivement, c'est un signal qu'il lance à la fois aux États-Unis et à la fois à Israël, parce qu'on connaît tous les divergences qu'il y avait entre Netanyahou et Gallant, qui sont des divergences d'ordre stratégique, et d'ailleurs qui opposent Netanyahou aussi, pas seulement à Gallant, mais à une partie de l'establishment militaire. C'est que pour l'establishment militaire israélien, ils ont gagné la guerre à Gaza. Donc il est temps de terminer cette guerre, de faire un vrai deal sur les otages et de sortir de Gaza de manière intelligente. Et sur le Hezbollah, ils considèrent aussi qu'ils ont gagné la guerre au Liban et qu'il y a encore quelques opérations de nettoyage, mais que c'est terminé. Netanyahou, il considère autre chose. Il considère qu'effectivement, la guerre à Gaza et au Liban est en passe d'être gagnée, mais que par contre, l'ennemi stratégique de fond, qui est l'Iran, n'est pas encore suffisamment déstabilisé, qu'il y a une opportunité de finir ce travail. Et justement, en limogeant Gallant la veille de l'élection, quand même annoncée et quasiment sûre de Trump, c'est un message lancé à la fois aux Américains qui veut durcir le ton, et un message aussi aux Israéliens et à l'establishment militaire qui veut aller jusqu'au bout, et que donc il veut se donner les moyens de pouvoir finir le travail sur l'Iran d'une manière ou d'une autre, peut-être même en conduisant un renversement de ce régime dictatorial. Et en fait, sur la question du ministre de la Défense, personne n'est dupe. en en nommant Katz, qui est une personnalité insignifiante et secondaire à ce titre, c'est en fait Netanyahou qui devient de facto le ministre de la Défense et qui est, comme c'était déjà arrivé dans l'histoire d'Israël, premier ministre et ministre de la Défense. Et donc, il n'a juste qu'un factotum à ce poste-là et ce sera lui qui prendra les décisions clés. Et donc, la donne change complètement en Israël avec, bon, Biden reste président jusqu'à fin janvier, mais dans une démocratie américaine, et Biden est un vrai démocrate, Biden aussi se concertera avec Trump dans le soutien à Israël dans les mois à venir. Donc, Israël a vraiment carte blanche, à mon avis. Mm-hmm. Netanyahou a toute carte blanche puisque sa coalition tient malgré l'image de Galant, et il devient ministre de la Défense de facto, il reprend en main directement la conduite de la guerre, et il n'a pas à la partager avec Galant. Donc effectivement, c'est un changement stratégique majeur qu'il va falloir suivre très très attentivement, parce que les choses peuvent bouger très vite dans la guerre, en fait, la guerre israélo-iranienne, qui dépasse très largement le conflit israélo-Hamas ou israélo-Hezbollah.
Alors, on va changer de sujet, on va parler de Sciences Po Strasbourg. L'Institut d'études politiques de Strasbourg a décidé de suspendre son partenariat avec l'université israélienne Reichmann, regrettant, je cite, « ses positions profondément bellicistes au regard de la guerre en cours à Gaza ». La décision a été prise lors d'un conseil d'administration de l'établissement, c'était en juin dernier, mais n'a été révélée que la semaine dernière. La motion a été porté par un collectif d'étudiants pro-palestiniens, a été soutenu par certains enseignants, mais la direction de l'Institut d'études politiques affirme s'y être opposée. C'est une décision affligeante, a jugé le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui est d'ailleurs aujourd'hui en Israël. François Heilbronn, cette décision de Sciences Po Strasbourg pourrait-elle faire tache d'huile dans d'autres universités en France ?
Oui, je voulais aborder ce sujet parce que même si c'est un peu anecdotique marginal, c'est représentatif d'une tendance de fond qu'il y a dans les universités en France sur lesquelles on se bat depuis un an, nous universitaires, mais aussi les responsables politiques et académiques, c'est la tentative du boycott des universités israéliennes. En fait, le mouvement palestinien qui est très actif dans toutes les universités internationales aux États-Unis, mais aussi en Europe et en France, qui s'appelle Students for Justice in Palestine, qui est un mouvement d'étudiants financé par le Hamas, structuré par le Hamas, et qui a remplacé en fait le BDS, est quelque chose d'assez dangereux. Et en fait, il est devenu dangereux à partir du moment où il a retrouvé des échos au train de deux organisations étudiantes. Une d'extrême gauche, trotskiste, qui s'appelle Solidaire, qui est proche du syndicat national Sud, et c'est vraiment des trotskistes de vieille époque, qui en ont fait une cause prioritaire pour eux. Et deuxièmement, depuis janvier dernier, de l'Union étudiante. L'Union étudiante est le syndicat créé par la France insoumise sur les décombres de l'UNEF. Et ces deux syndicats sont en pointe pour importer le conflit israélo-Hamas au sein des universités françaises. Alors, quand on dit Sciences Po Strasbourg, c'est pas tout à fait exact. C'est l'Institut d'études politiques de Strasbourg. Ça n'a rien à voir avec Sciences Po Paris, qui est lui le seul Sciences Po, en fait. C'est une petite école, l'Institut d'études politiques de Strasbourg, donc c'est pas très représentatif. Cette décision non plus a été prise dans des conditions un peu particulières, parce qu'en juin, il n'y a pas beaucoup de profs, il n'y a pas beaucoup d'étudiants qui viennent au conseil d'administration. Ça a été voté par 12 voix, et sur les 12 voix, il y avait 8 étudiants solidaires qui ont voté la décision, il y avait 2 autres étudiants et 2 professeurs. Et les autres n'étaient pas là, il y a eu des abstentions. Le directeur de l'Institut, Jean-Philippe Hurtin, a exprimé une très très forte réserve contre cette proposition. Il a dit que c'était une catastrophe. Par contre, c'est une première victoire pour eux, parce que ça a été tenté sur plusieurs campus, plusieurs universités. À chaque fois, ça a été repoussé. À Sciences Po Paris, où je suis justement membre du conseil, ça a été tenté aussi par les étudiants de l'Union étudiante et les étudiants solidaires d'avoir le même type de discussion et le même type de vote. À Sciences Po Paris, on a même refusé qu'il y ait un débat et un vote sur le sujet, puisqu'on ne voulait pas qu'en aucun cas des relations académiques entre universités, quels que soient les contextes politiques, ne puissent être discutés. Et à juste titre, vous avez noté la très forte condamnation à la fois des institutions universitaires françaises, du ministre de l'Enseignement supérieur, en plus ministre de l'Enseignement supérieur qui était recteur de l'Académie de Strasbourg, donc il connaît bien le sujet, et aussi du ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui a dit que à juste titre, que l'université, c'est le lieu débat, de la tolérance et le temple de l'esprit critique. Je voudrais rajouter quand même un point qui n'est pas anecdotique, lui. Ils ont rompu les relations universitaires avec l'université Reichmann en Israël, et de cette université, il y avait un étudiant, Omri Reim, qui a été étudiant en échange à Sciences Po, Paris, et qui a été assassiné au Festival Nova le 7 octobre. Donc c'est une double insulte à la mémoire de Omri Reim et une insulte à la liberté académique, la liberté d'échange. On ne rompt jamais des relations académiques avec une université, quelles que soient les conditions géopolitiques. L'université, c'est un lieu de débat, d'échange, de création, d'ouverture sur le monde. Et les universités israéliennes ont cette relation exemplaire et passionnante. Et par exemple, je suis très heureux qu'à Sciences Po Paris, les relations continuent, même si les envois d'étudiants en Israël, évidemment, sont compliqués, même sont interdits par le est lancé pour des raisons sécuritaires, mais comme dans d'autres pays de zone de conflit, il n'y a pas d'étudiants français en Ukraine ou pas d'étudiants français au Liban. Mais les relations académiques sont importantes, il faut les défendre, donc c'est un combat politique. C'est une toute petite victoire pour l'extrême-gauche radicale de Solidaire et de l'Union étudiante que cette victoire-là. Il ne faut pas que ça fasse tache d'huile, et effectivement, il y a une mobilisation très vigilante. À Sciences Po Lille, donc l'Institut d'études politiques de Lille, il y a les mêmes tentatives qui sont en cours, mais qui sont en train d'échouer, et donc il faut résister dans les universités françaises. Il faut résister parce que nous avons à la fois la majorité des enseignants et des chercheurs sont contre, même s'ils ne sont pas forcément pour les Iraniens, ils sont contre parce qu'ils savent la qualité et l'importance de leur relation académique. Mais il faut rester vigilant, il faut se battre, il faut justement essayer de retoquer ce type de position politique insupportable.
François Heilbronn, merci d'avoir été avec nous sur Radio Shalom. Je rappelle que vous êtes professeur associé à Sciences Po. Merci, bonsoir.
Bonsoir Pierre.